Session La Métaphysique aujourd'hui par le Père Marie-Dominique Philippe, le 5 juillet de l'an 2000 à Saint-Jodard.
Ce matin, j'ai essayé de vous montrer comment normalement on peut très bien ne pas être normal. Comment normalement, après avoir vu le point de départ de la philosophie, ceci est « Je t'aime, Arthur ». On découvre première partie de la philosophie de l'homme travaillant, la philosophie de l'art. J'ai l'expérience de l'homme travaillant. J'ai l'expérience, si je suis artiste, de ce que c'est qu'un travail artistique. Et si je ne suis pas artiste, je peux en connaître, et ils sont mes amis, d'autres moi-même. Première partie, philosophie de l'art. Je crois que la première chose qu'on doit faire pour rentrer en philosophie, c'est la philosophie du travail et la philosophie de l'art. Ensuite, la philosophie de l'amour d'amitié. L'homme est responsable de ses activités. L'homme est responsable d'aimer quelqu'un. Philosophie morale. D'abord la philosophie d'art, puis la philosophie morale, et puis philosophie de la communauté, de la famille, de la communauté des travailleurs, de la communauté politique. Vous voyez, il y a trois parties de la philosophie qui sont pratiques, concrètes. C'est l'homme. Et c'est vrai, j'ai typiquement ces trois activités. Activité du travail, de l'art, activité de la responsabilité morale vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres, et puis l'activité politique. Ensuite, il y a une nouvelle philosophie qui est l'homme qui réfléchit sur ce qu'est sa vie. Il ne fait plus rien de lui. Ce n'est plus le travail. Ce n'est plus la morale. Ce n'est plus l'activité politique. Mais qu'est-ce que c'est que le vivant ? Et après le vivant, j'entre dans la philosophie de l'être. Le ceci est, c'est moi. Je suis. Et le ceci rend la chose objective et non pas subjective, mais l'être à l'homme. L'homme existe comme la grenouille, mais autrement. J'ai une manière d'être qui est autre que la grenouille. Je crois que c'est facile à comprendre. Et j'étudie l'être à l'homme. J'entre en métaphysique. Mais je puis. Alors c'est là la normale. Je peux me poser tout de suite la question l'être à l'homme. Sans voir ces parties de la philosophie antérieures à la métaphysique et qui sont vraiment de la philosophie de l'art, l'éthique, la philosophie morale, la philosophie de la communauté. Tout ça m'intéresse, parce que tout ça intéresse l'homme. Et tout ce qui est humain intéresse le philosophe. Oui, c'est très vaste la philosophie. C'est tous ces domaines. Et la fine pointe de la philosophie, c'est toujours ce qu'on appelle la métaphysique. Qu'est-ce que c'est que l'être à l'homme ? La question, qu'est-ce que c'est que l'être à l'homme ? Je suis, j'existe. Ça m'intéresse. Et je dis bien que c'est la fine pointe de la philosophie, c'est le sommet. Toutes les parties antérieures, la philosophie de l'art, ça m'aide à comprendre ce que c'est que l'homme. La philosophie morale avec l'amitié, ça m'aide à comprendre ce que c'est que l'homme. Quand je comprends l'ami, je comprends ce que c'est que l'homme. L'homme est capable d'amitié. Est-ce qu'un animal peut être capable d'amitié ? Deux petits chiens qui sont nés à peu près en même temps. Ils sont compagnons, ils sont tout le temps ensemble, deux petits jumeaux. Est-ce qu'ils peuvent avoir de l'amitié ? Non. Ils sont compagnons, parce qu'ils mangent toujours l'un à côté de l'autre. Il peut se faire, même quelquefois, ils sont tellement compagnons que si un meurt, l'autre meurt. C'est vraiment l'amitié, ça. Non, c'est pas ça qui détermine l'amitié. Ça veut dire qu'ils étaient vraiment en harmonie, si grande que si on sépare l'un, l'autre pleure, et pleure tellement qu'il meurt. Mais il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'amour. Au sens rigoureux, il y a l'instinct. L'amitié repose sur un instinct qui nous porte vers l'autre. C'est mon compagnon de route. Entre deux jumeaux, ils sont compagnons de route. Il peut s'établir une amitié, c'est tout à fait différent. Il peut très bien pas s'établir d'amitié. Il y a une rivalité, au contraire, entre les deux. Quelquefois, tout s'arrange par une grande amitié merveilleuse. Mais être jumeau et être ami, c'est pas la même chose. Alors, vous voyez, ça, il faut bien le voir, que la métaphysique, cette philosophie de l'être, elle peut se poser tout de suite. Dès que j'ai découvert que l'expérience fondamentale, c'est ceci est, que l'expérience ultime, c'est je t'aime, mon ami, tu m'aimes. Cet amour de l'ami, ces deux expériences, tout de suite me posent le problème radical de je suis. Quand je dis ceci est, le ceci, ça peut être moi. Ça peut être n'importe qui d'autre, mais ça peut être moi, je fais partie de cela. Mon être, qu'est-ce que c'est que mon être ? Non, vous voyez donc qu'il y a deux manières d'aboutir à la métaphysique. Une lente, progressive, la métaphysique est ultime. Et l'autre, où je me pose tout de suite le problème de la métaphysique. Alors, pour bien comprendre ça, je vais regarder que mon intelligence qui expérimente, interroge. La naissance de l'interrogation. Mon intelligence expérimente. Ceci est, je t'aime. Et l'intelligence, à partir de cette expérience fondamentale, ceci est, l'intelligence interroge. Pourquoi ça ? Parce qu'il y a en moi un désir de vérité. Je veux savoir. Savoir en profondeur. Un désir de vérité, de connaître. S'il n'y avait pas ce désir radical de la vérité, je dirais ceci est. Mais quand je dis ceci est, tout de suite, je dis oui, j'affirme ceci est, mais qu'est-ce que c'est que l'être ? L'être de l'homme, est-ce que c'est ses cheveux ? Est-ce que c'est son nez ? Est-ce que c'est sa main ? Est-ce que c'est son âme ? Quelque chose intérieur. Vous voyez, tout de suite, l'être m'apparaît, l'être de l'homme m'apparaît multiple. Je veux dire, cet homme, il est intelligent, il est bon, il est grand, il a des yeux extraordinaires, il a des mains puissantes, et ainsi de suite. Toutes ces qualités. Et je vous ai dit ce matin, quand je vois cette multiplicité, j'essaie de l'ordonner. Toutes ces qualités de l'homme, j'essaie de l'ordonner. Si je me pose la question, qu'est-ce que c'est l'être à l'homme ? Qu'est-ce que c'est que l'être de l'homme ? C'est sa figure, c'est ses bras, c'est son corps. Et si j'ai découvert qu'il avait eu l'âme, est-ce que c'est son âme ? En philosophie du vivant, j'ai découvert l'âme. Comme la réalité cachée, secrète. Vous voyez ? La multiplicité de l'être. Aristote dit, l'être se dit de multiples façons. L'être se dit de multiples façons. Et c'est vrai, la tête fait partie de son être, son nez fait partie de son être, sa main fait partie de son être. Il y a donc une multiplicité et quel est l'ordre ? Qu'est-ce qui est principal ? Est-ce la main au point de vue de l'être ? Est-ce la main ? Est-ce ses cheveux ? Sa barbe ? Qu'est-ce qui est le principal ? Je vous ai dit, dès qu'il y a un ordre pour découvrir le principal, il faut découvrir le premier. Qu'est-ce qui est premier ? Ah oui, j'ai l'expérience, ceci est, par rapport à un homme, par rapport à quelqu'un que je connais, même par rapport à moi, ceci est. C'est, ça existe de multiples façons. Tout de suite. Ceci est, se donne à moi de façon très différente. Et je ferai ça pour toutes les parties de la philosophie. L'homme travaillant, oui. L'homme travaillant le bois. L'homme travaillant un livre parce qu'il fait des études historiques. Il travaille. L'homme travaillant parce que il apprend une langue. L'homme travaillant parce que il est un artiste. Il est travaillant de multiples manières. Il est de multiples manières et il est travaillant de multiples manières. Qu'est-ce qui est premier ? Voyez, comment, en voulant trouver en profondeur ce que je suis, puisque je suis de multiples manières, j'existe dans ma main. C'est ma main, c'est moi, c'est mon être. Et si on vient me couper, je n'ai pas le droit. Ça m'appartient, ça. Et mon bras, c'est mon bras. Et c'est curieux, si j'avais un cancer, on me le couperait peut-être. Et quand on vous coupe un bras, heureusement je n'ai pas l'expérience, mais je connaissais très bien un philosophe qui était un ami pour moi. Il habitait Lausanne et on a dû l'amputer du bras. Alors, il m'a dit, oh, c'est curieux, il n'avait plus son bras. Mon bras, il est toujours là. Je suis tellement habitué de mon bras. Et je ne peux pas le soulever, il n'est plus là. Et c'est bien mon bras. C'est vrai, c'est tellement nous. L'être se dit de multiples façons. Tout de suite. J'arrive à cette constatation qu'il y a donc un ordre dans cette multiplicité. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine unité. C'est mon être. C'est moi qui suis dans ces diverses parties. C'est mon être. Alors qu'est-ce qui est le plus mon être ? Est-ce que mon âme est plus mon être que mon pied ? L'avantage de mon âme, c'est qu'on n'arrive pas à l'enlever. Uniquement pas, on peut arriver à l'enlever. Si je réfléchis bien, je vois qu'il y a des parties essentielles, puis il y a des parties secondaires. Mais qu'est-ce qui est premier ? Qu'est-ce qui est vraiment mon être dans ce qu'il a d'essentiel, dans ce qui est tout à fait moi, et pas ce qui s'ajoute. Je peux avoir une canne pour marcher, c'est pas mon être, c'est ma canne. Je fais une petite distinction très intéressante entre être et avoir. Tiens, il y a des choses que j'ai, mon vêtement. Est-ce que c'est mon être ? Non, c'est mon avoir. C'est ma chemise. Être et avoir. Et dans l'être, je distingue ce qui est essentiel, ce qui est secondaire. Il y a des choses qu'on peut m'enlever, qui sont mon être pourtant, mais on peut les enlever. Il y a des choses qu'on ne peut pas. Qu'est-ce qui est fondamental en moi ? Je vois que toutes les déterminations, toutes les qualités que j'ai font partie de mon être. Et j'interroge si mon être est multiple, il est ordonné, qu'est-ce qui est premier ? Quelle est la détermination essentielle au milieu de toutes ces déterminations ? Vous vous êtes peut-être jamais posé la question, hein ? Mais vous pouvez vous la poser. Et je la posais sincèrement pour mieux comprendre. C'est intéressant de savoir ce qui est essentiel à moi, dans mon être. C'est cette première étape de la philosophie où on a déterminé les diverses manières de considérer l'être humain. On dit il est de telle taille, carte d'identité, de tel poids de mon être, mon poids, ma taille, mon poids, la couleur de mes yeux, la couleur de mes cheveux, tout ça c'est mon être, les déterminations. Mais c'est pas premier. On peut me couper les cheveux, les arracher, ils peuvent tomber. C'est important. Quelqu'un qui attrape le cancer, il perd ses cheveux, il en est désolé. Mais c'est pas essentiel. Il peut garder toute son intelligence sans ses cheveux. Ah. Donc, l'intelligence reste indépendante de mes cheveux. Il peut même ne plus pouvoir bouger et garder toute son intelligence. Donc, bouger, marcher, courir, c'est secondaire. Il peut continuer d'aimer sans cheveux. En étant immobile. Et il y a des choses qui sont tout à fait capitales. Si on me coupe la tête, alors là, je pourrais plus penser, tiens, je serais mort. Mon être va disparaître. Je n'ai pas l'expérience de la mort, vous non plus. Mais vous avez une quasi-expérience de la mort. J'ai un ami, pour un père, pour une mère, pour un frère. On a été près de lui. Tant qu'il vivait, il répondait. Je lui posais des questions, il me répondait. Puis à un moment, il n'y a plus de réponses. J'ai regardé, ça ne respirait plus. Extérieurement, c'était exactement le même. Mais quelque chose qui s'est passé. Quoi ? Je peux pas le dire. J'ai rien vu. Il y a un instant où il était vivant, puis il était plus vivant. Et j'ai dit, à ce moment-là, son âme a disparu. Son âme, quelque chose de spirituel, au fond, sa vie a disparu. La source de sa vie a disparu. C'est curieux. Qu'est-ce qui est capital dans un être ? La source de sa vie, ça c'est sûr. La source de son intelligence, ça c'est sûr. La source de son amour, oui. Et puis il y a les manifestations extérieures. Je distingue tout ce qui est extérieur et puis ce qui est intérieur. Et son être est quelque chose d'encore plus radical que sa vie. Son être est resté, quant à son corps, visible au début. Son corps est le même, toujours le même, mais il n'y a plus la vie. Précise petit à petit ce qui est principal, ce qui est premier pour lui, la détermination qui se manifeste par la parole. Je suis. Il y a quelque chose en moi qui est le plus important. Et je vois que dans ma pensée, je peux penser à ce qu'il y a de plus radical en moi, mon âme. Mon âme fait mon unité. Il y a une très grande diversité en moi, mais c'est toujours moi. Toute cette diversité, c'est moi. C'est quelque chose d'intérieur qui fait l'unité. C'est mon âme. Qui est source de toute la diversité, de toute cette multiplicité. Et qui, en même temps, est source de l'unité. C'est la même source pour l'unité et la diversité. C'est mon âme. Mon âme, c'est une détermination fondamentale qui fait l'unité. L'unité qui est en moi et la diversité de toutes mes activités. Alors, j'essaie de comprendre ce que mon âme, qui est la racine, la source de toutes les déterminations qui sont en moi. C'est elle qui me permet de saisir cette diversité, de voir ce que c'est. Alors, je pousse toujours mon interrogation, vous voyez bien, L'interrogation, c'est quelque chose de très important. C'est d'aller au-devant de ma recherche. Si j'interroge pas, je n'avance pas. Qu'est-ce qui est premier dans mon être ? Qu'est-ce qui est premier dans ma vie ? Mon âme. Est-ce que mon âme est ce qui est premier dans mon être ? Est-ce que c'est mon âme qui explique toute cette diversité qui est en moi ? Elle est multiple, cette diversité. Cette détermination. Je vois ce qui est essentiel, mon âme. Et c'est vrai. Quand mon âme s'en va, mon corps n'est plus vivant. Et très vite, mon corps perdra son unité. C'est pas très drôle, ça. Hein ? Il va se corrompre. Il va partir dans tous les sens. Mon âme est invisible. Principe d'unité en moi. Quelque chose qui anime tout mon corps, et en elle-même, par elle-même, elle est au-delà de toute la matière, de mon corps, elle est ce qui anime mon corps, et elle-même, qu'est-ce qu'elle est ? Elle est principe, source d'unité en moi et de multiplicité. Alors, je me pose une question. Qu'est-ce que c'est que ce principe ? Constater l'ordre, la multiplicité. Et je me suis dit, il y a en même temps un principe d'unité qui veut toutes ces moi. C'est très divers, mais c'est moi. Ce principe de vie une, d'unité en moi, d'être en moi. Je dis, c'est mon âme. Il y a eu un mot que le philosophe n'a pas inventé. Le mot âme provient de traditions religieuses, avant tout. C'est pour ça que on nie si facilement l'âme. Parce qu'on dit que l'âme, c'est quelque chose de religieux, ça vient du Créateur. Donc, si j'accepte l'âme, j'accepte Dieu. C'est vrai que le mot âme provient de traditions religieuses, psyché, l'âme. Et Aristote et Platon se sont posé la question : est-ce que l'âme qui vient de tradition religieuse, est-ce que c'est quelque chose d'un mythe ou est-ce que c'est une réalité ? Et j'ai encore vu ça, il n'y a pas si longtemps que ça, après la guerre, la première fois que j'étais en Grèce. J'étais à Fribourg à ce moment-là, en Suisse. On avait une invitation par l'université d'Athènes d'être invité. Et je me suis trouvé devant des professeurs grecs, tous orthodoxes. Et ils m'ont demandé, vous qui êtes philosophe et qui êtes chrétien, est-ce que l'âme, vous l'affirmez en philosophe ou en chrétien ? Ils ont ajouté, est-ce qu'on peut, en tant que philosophe, dire que l'âme existe ? Ou est-ce qu'on ne le dit qu'en tant que chrétien ? C'était une très bonne question. Ça m'est resté. Ces philosophes grecs à Athènes se posaient la question. Alors, j'ai dit, Platon, qui a enseigné à Athènes il y a un petit moment, Aristote, qui a enseigné à Athènes il y a un petit moment, est-ce qu'ils affirmaient ça comme un mythe ou comme une réalité, un logos, un principe ? Alors, ils m'ont regardé, ils n'osaient pas trop dire. Je dis, Platon et Aristote ont essayé par tous les moyens de montrer que le philosophe doit affirmer que l'âme existe. Alors, nous, même si la science ne découvre pas l'âme, la science biologique ne veut parler que du corps, parce qu'elle n'expérimente que cela. Elle n'expérimente pas l'âme, ce qu'est l'âme. Mais j'ai une connaissance de moi-même. Socrate avait dit, connais-toi toi-même. Il faut se connaître. Quand vous réfléchissez, quand vous pensez, c'est bien vous. Je soulève du poids lourd. C'est moi. Et quand je pense, c'est moi. C'est pas un autre qui me souffle l'oreille, ce qu'il faut dire. Quand j'étais petit, j'étais comme ça. Mais un moment est arrivé où j'ai pensé de moi-même, tout seul. J'ai cherché. J'ai interrogé, est-ce que l'âme existe ? Ça, c'est une interrogation philosophique extrêmement intéressante, qu'on peut tous se poser. Est-ce que l'âme existe ? Première question, cette question, elle se pose en philosophie du vivant. Comment je pose l'âme ? À partir de l'expérience. À partir de la diversité de mes expériences. À partir de l'unité de toutes ces expériences. J'ai toujours mes expériences. C'est moi. C'est moi qui ai expérimenté ça, c'est moi qui ai pensé, c'est moi qui ai interrogé. Est-ce que l'âme existe ? Qu'est-ce qui pose cette question? Est-ce que c'est mon corps? Ah non. Parce que quand il y a le corps du pauvre qui vient de mourir, il n'interroge plus. J'ai beau l'interroger, il ne répond plus. Oh, qu'est-ce qui est arrêté? Oh, les neurones. Oui. Non, il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose qui a disparu. Et avant la mort, je pouvais dire que toute cette diversité d'expériences que j'ai faites, que je fais, c'est toujours moi. Il y a une unité. Et cette unité, elle est présente dans chaque expérience. C'est moi qui mange, c'est moi qui dors, c'est moi qui résonne, qui songe. C'est moi. Et toujours moi. Dans l'unité. Il y a donc une unité à l'intérieur de toutes ces expériences qui reviennent toujours à moi-même, à moi. Alors, à ce moment-là, je vois que ça ne peut pas être quelque chose de corporel, parce que le corporel, il est autre que autre chose corporelle. Il y a la dualité. Mon bras, ma tête n'est pas dans mon bras. Ils sont deux. Et comment je peux dire qu'ils sont deux ? Et qui sont en même temps un à moi. Ma tête est à moi, mon bras est à moi. Qu'est-ce qui peut dire à moi? Je raisonne. Rien de matériel ne peut raisonner, unir deux choses totalement extérieures, les unir en disant, c'est moi qui raisonne, c'est moi qui pense. Ah, et je pense, et je peux affirmer quelque chose d'universel. Je peux affirmer qu'il y a quelque chose de premier dans toute multiplicité. Il y a quelque chose de premier qui explique cette diversité, qui l'unifie. Il y a donc en moi quelque chose qui explique cette diversité, mon corps. Quelque chose qui ramène cette multiplicité à l'unité, un principe, mon âme. C'est ce qui fait l'unité en moi. Et ce quelque chose qui a l'unité en moi et qui pense est au-delà de la matière, parce que je peux penser l'universel. L'universel n'est pas dans la matière. Alors, je peux dire qu'il y a en moi, dans toute cette diversité, quelque chose qui l'unifie, mon âme. Et je dirais qu'on âme fait l'unité de cette diversité, l'unité de mon être et de ma vie. C'est mon âme, principe d'être, principe de vie. Mon âme est une source, c'est un principe d'être et de vie. Et c'est ça qui explique comment toute cette diversité se ramène à l'unité. Je me souviens, c'était à Lausanne. J'aimais beaucoup le professeur de Lausanne, de l'université. C'est un protestant intelligent, très proche des chrétiens catholiques. J'allais souvent prendre un repas chez lui quand je passais à Lausanne. Je savais que ça lui faisait plaisir. Et je me trouvais devant lui et son épouse. Lui avait un protestantisme très ouvert. Son épouse avait un protestantisme très sévère. De sorte que dans la conversation, lui disait toujours « mon père » et elle me disait toujours « monsieur ». C'est amusant. Et il m'a dit, mes élèves ne pensent pas qu'il puisse y avoir âme et corps. Ils pensent que l'âme n'existe pas. Ça, c'est les mythes religieux. C'est toute la littérature religieuse, mais pas philosophique. C'est un mythe, l'âme. Alors je lui dis, vous, qu'est-ce que vous pensez? Oui, moi je crois qu'on a quand même l'âme et le corps. Mais j'arrive pas à l'expliquer à mes étudiants et mes étudiantes. Je ne peux pas vous inviter à l'université parce que vous êtes à Fribourg, vous êtes catholique, alors je peux pas. Je le ferai bien, moi, je ne demanderai pas mieux, mais je peux pas. Alors, je vais inviter, si vous voulez bien, un soir, on va s'entendre, tous mes étudiants et mes étudiantes. Ils ne sont pas très nombreux. Il n'y en a qu'une trentaine qui font de la philosophie. Vous voulez bien? Et on passera la soirée ensemble. Et vous allez leur montrer que l'âme existe philosophiquement, qu'on peut atteindre l'âme. Alors j'ai dit, bon, très bien. C'était très bien de dire ça. Alors je me suis trouvé devant 30 étudiants et étudiantes, tous entre 18 ans et 21 ans, quelque chose comme ça, farouchement, n'ayant l'âme, toutes très unies au professeur Merleau-Ponty français, de ses livres, et dans ses livres, le professeur Merleau-Ponty rejetait l'âme. Alors, j'avais devant moi une étudiante que je ne connaissais pas. Je lui dis, est-ce que vous faites une distinction entre philosopher, parce qu'on va philosopher, et dormir? Elle n'a pas osé me répondre qu'elle faisait une distinction. Alors je l'ai secouée, je lui dis, pour vous c'est la même chose, philosopher et dormir. Elle n'a pas osé me répondre. Et comme elle n'osait pas, j'ai demandé à un autre, pas osé me répondre. Alors vous dormez quand vous philosophez, ou vous philosophez quand vous dormez? Ah, ça avait fait très bien. L'expérience. Moi, normalement, tous les jours, je fais l'expérience de me réveiller. C'est une fameuse expérience de se réveiller. On passe d'un régime de vie délicieux à un régime de vie sévère. leur ai demandé s'ils faisaient l'expérience de se réveiller. D'abord, ils disent : ah, vous avez peur d'expérience alors ? Moi, j'en ai pas peur. Je veux toujours revenir à l'expérience. Tellement plus intéressant. Puis alors, au bout de quelques minutes, je dis : mais oui, si vous acceptez la différence entre dormir et philosopher, vous acceptez qu'il y a en vous quelque chose qui, tous les jours, a besoin de dormir. Et puis vous acceptez qu'il y a en vous quelque chose qui a besoin de se réveiller pleinement et faire de la philosophie. Eh bien, ce quelque chose, il y a le corps. C'est le corps qui dort. Vous êtes bien d'avis que c'est le corps qui dort. C'est à cause de votre corps que vous avez besoin de dormir, parce que vous êtes fatigué. Et si vous ne vous couchez pas ce soir et vous continuez de faire de la philosophie toute la nuit, au bout d'un certain temps, vous piquerez du nez. Et faire de la philosophie, c'est pas votre corps. Non. Quelque chose d'intérieur. Acceptez-vous la différence de l'intérieur et de l'extérieur. Alors, toujours le silence. Parce qu'elles avaient peur de répondre, grand peur de répondre, que c'est vrai, l'extérieur, je touche, ça c'est l'extérieur, puis l'intérieur, je réfléchis. Il y a deux dimensions en vous. L'extérieur et l'intérieur. Est-ce que vous acceptez ces deux dimensions ? Non ? Oh. Alors on a discuté comme ça pendant longtemps. Personne n'a dormi. Ils sont restés tous éveillés. Est arrivé vers le coup de minuit un bon thé fait par l'épouse du professeur. Un très bon thé, avec des petits biscuits. Alors la philosophie a baissé. Elle a baissé pour qu'on puisse boire le thé, pour qu'on puisse manger les gâteaux. Alors, j'ai repris la voisine en face de moi. Elle dit : vous avez remarqué que la philosophie a dégringolé, hein ? Parce que le thé était très bon. Et on avait besoin de se refaire un petit peu. On avait discuté tout le temps. Est-ce que c'est la même chose pour vous, boire du thé et faire de la philosophie ? Elle n'a pas osé répondre. Parce qu'elle avait peur des conséquences. Boire le thé, c'était pour me réveiller. Faire de la philosophie, c'était d'être éveillé. Si vous acceptez toutes vos expériences, vous êtes bien obligé de dire qu'il y a des expériences qui regardent mon corps. Et beaucoup d'expériences impliquent le corps. Même les sensations, ça n'implique pas que le corps, ça implique autre chose. Je sens quelque chose. Et ça, c'est pas uniquement corporel. Je sens quelque chose. Depuis, je pense, depuis Descartes, je pense, cogito. Oh, vous voyez, c'est très important ça, d'être loyal dans ses expériences et de montrer que la diversité de nos expériences provient de mon corps. L'unité de ces expériences provient de quelque chose qui est au-dessus de mon corps. Au-dessus. Est-ce que mon âme est au-dessus ? Non, mais imaginativement, je dis au-dessus. Elle est au-dessus, plus grande, et elle fait l'unité. Mon âme est présente dans mon petit doigt. Quand je serre mon petit doigt, je touche mon âme. Tiens, ah, pas directement, mais je touche quelque chose, mon âme. Puis quand je pense très sérieusement, je dépasse cette expérience, je dépasse mon corps, je réfléchis. L'universel, l'homme, homme, est un universel, une signification universelle, est au-delà de la quantité, est au-delà de la matière. C'est quelque chose de spirituel. Si j'aime, je peux aimer avec mes passions, puis je peux aimer avec mon imagination. Je peux rêver à une déesse, quelqu'un de merveilleux, puis je peux réfléchir. J'aime, c'est au-dessus de mes passions, au-dessus de mon imagination, c'est mon esprit. Ah, c'est mon esprit, c'est mon âme qui aime. Il y a l'âme, le corps et l'âme. Et je vois que l'âme est source de vie, source d'être, source d'unité. Mon âme est donc première dans ma vie, pour ce qu'elle est source, les principes de mon être, de la diversité de mon être. Et il fallait maintenir l'interrogation. Qu'est-ce qui fait l'unité de mes expériences? Qu'est-ce qui fait l'unité et qui ramène cette diversité à l'unité? Je remonte des expériences, je monte des expériences vers le principe de tout cela. Et je saisis qu'il y a nécessairement quelque chose qui fait mon unité.